10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, tous les samedis sur Beurre FM en direct, une heure pour parler d'islam. Ça s'appelle l'islam au présent. L'imam Abdelali Mamoun est revenu de la Omra. Comment ça va, imam Abdelali?
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bah écoute, très bien Philippe, merci beaucoup. Effectivement, je reviens de la Omra. C'était tout simplement magique, extraordinaire.
Vous n'êtes pas revenu seul, hein, en plus.
Je ne suis pas revenu seul. Oui, j'étais en groupe.
Ah
je
oui,
suis parti.
Ah
je ne suis pas parti seul et je ne suis pas revenu seul.
Ah, heureusement, vous avez ramené tous vos pèlerins.
J'ai ramené tout le monde, ouais. Et j'ai failli ne pas en ramener un. Puisqu'il est mort 2 jours après notre arrivée.
Mais vous êtes sérieux?
Non, excuse-moi. Le jour même on est arrivé, il est mort.
Non, vous êtes sérieux?
Ouais, mais le gars, il avait 91 ans ou 92 ans et il avait un cancer. Et sa fille, elle l'a emmené avec lui là-bas. Et voilà, je voudrais en profiter pour demander à tous ceux qui nous écoutent ce matin de faire un dua pour l'Hajj Ali. Il s'appelle Monsieur Ali. Allah yarhamou sa'ali, qu'Allah le couvre de sa miséricorde, qu'il fasse de sa tombe un verger du paradis, qu'il épargne des calamités du jour du jugement dernier, des châtiments de la tombe. Amin ya rabbal alamin. Que Dieu accorde la consolation et la patience à toute sa famille, inchallah ya rabbal. Bon. Nos meilleures condoléances à toute condoléances.
C'est un mamounisme. Ce
voilà. Condoléances à toute la famille, Inch'Allah. Elle orte Rima, sa fille s'appelle Rima.
Ah, je savais pas, j'étais pas au courant, sinon je voudrais pas lancer là-dessus. Hein.
Ouais. Ouais. Mais ouais.
Il a fait toute la Omra.
Il a fait toute la Omra. Ouais. Il est arrivé le matin et il est parti. Voilà. Dans son lit, à la maison, tranquille. Il a été purifié, alhamdoulilah, puisqu'on dit que le Omra est purificatrice. L'Omra kaffaratu lima baynahuma, comme le dit le prophète. Kaffara, elle absout tous les péchés. Et donc, il est revenu allégé, soulagé de tous ses péchés. Alhamdulillah, voilà. Une des meilleures manières de partir. Moi, j'aurais aimé qu'il parte là-bas. Bon, le maktoub.
Pourquoi?
Ah bah, écoute, mourir à la Mecque, c'est quand même particulier, ou à Médine.
Mais est-ce que justement, il y a un statut particulier pour ceux qui meurent?
Eh bien, le prophète a dit, celui qui peut mourir à Médine, qu'il meure, le prophète a dit, car ce seront les premiers ressuscités avec moi le jour du jugement dernier. Ceux qui meurent à Médine dans le Baqi', ce sont les premiers ressuscités avec le prophète le jour du jugement dernier. Donc, ceux qui peuvent, éventuellement, s'ils ont un malade, quelqu'un qui... Bon, il est en phase terminale et qu'il a envie, peut-être là-bas, miraculeusement, en buvant Zemzem, il peut guérir. Mais en tout cas, si c'est fini, il n'y a plus de chance, il n'y a plus rien à faire, la médecine a baissé les bras et qu'il se retrouve, comme on appelle ça, en soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est quoi? Ce sont des soins qui permettent d'accompagner la personne vers la mort. Et donc, les médecins ne peuvent plus rien faire. Eh bien, envoyez-le à l'Omra. Peut-être que là-bas, il y aura un miracle, il va se passer quelque chose. Et c'est déjà arrivé. Ou bien, tout simplement, il décidera de le prendre là-bas et c'est la meilleure manière de quitter ce bas-monde, c'est d'être auprès du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam.
Et alors, si vous décédez sur place, est-ce que vous êtes enterré sur place?
Ah, obligatoirement. Systématiquement, il n'y a pas de rapatriement qui compte. D'accord. Malade, on peut rapatrier des malades,
ouais.
Mais même, je vois pas l'intérêt parce que là-bas, les hôpitaux sont dernier cri, sont des hôpitaux de dernier cri. Ils ont tout le matériel américain, top. Hein. Franchement, je le dis avec sérieux. Hein. Ils ont vraiment tout. Du dentiste, problème de dents, les yeux, le cerveau, neurologique, tout ce que tu veux avoir. Ils ont des IRM, des scanners, tout ce qu'il faut. Donc, ils font tout ce qu'il faut avec des plus grands spécialistes saoudiens qui ont été formés aux États-Unis. Donc, au niveau soins, ils savent faire. Il n'y a pas de problème. Maintenant, effectivement, si quelqu'un décède, eh bien, alhamdoulilah, le mieux pour lui, c'est de rester là-bas, bien sûr. Il est enterré avec les compagnons du prophète dans le Baqi', ridwanullahi ta'ala, en espérant que lui, il obtiendra, inshallah, l'intercession du prophète le jour du monde dernier, puisqu'il est, comme je le dis, dans une phase terminale, cancer généralisé, par exemple, ou une situation où ça devient trop... Là, en l'occurrence, c'est vrai que moi, je l'ai vu petit à petit partir, Philippe. J'ai vu ses mains glacées. Je disais à sa fille, mais pourquoi il a les mains très, très froides comme ça? C'est pas normal. Elle me dit, non, c'est normal, parce qu'il bouge pas beaucoup ses mains. Subhanallah, vraiment, il m'a fait beaucoup de peine. Il m'a touché beaucoup, ce malade. Je sais que ceux qui m'écoutent, qui sont venus avec moi, ont vécu aussi ce moment... très pénible pour nous tous parce que beaucoup alhamdoulillah ont donné un coup de main à la sœur pour le porter parce qu'il a fait toutes les visites il a été avec nous voir tout le mont Arafat, il est parti à Minan, il a voulu tout faire, la tombe du prophète, il a tout voulu faire, il a rien voulu. L'Omra, il l'a fait aussi sur une chaise, tout ça bien sûr toujours sur une chaise roulante. Il était constamment sur une chaise roulante. Mais vraiment, franchement, chapeau à sa fille. Elle a pris soin de lui. Si sa famille, elle m'écoute, eh ben, sachez que je suis témoin devant tous les auditeurs auditrices que sa fille a été largement à la hauteur. Je n'ai jamais vu une personne au petit soin vis-à-vis d'un malade comme j'ai vu cette femme s'occuper de son père. C'est incroyable. Incroyable comment elle s'occupait de lui. C'est magnifique. Mashallah. Allah jazir, qu'Allah la récompense et qu'il lui accorde, inshallah, pour cela une intercession shafa'a yawm al-qiyamah, inshallah yawm al-qiyamah.
Voilà, ce sont des histoires de vie aussi, hein, Imam Abdelali. Ouais. Alors nous sommes
car la mort en fait partie.
Bah oui, la vie et la mort, ça fait partie de la vie. Alors Imam Abdelali, nous sommes rentrés dans le mois de Shaaban, le 8e mois de l'année musulmane. C'est le mois qui précède le mois de Ramadan qui arrive. Ça signifie quoi déjà étymologiquement Shaaban?
Ah, Shaaban.
Moi j'ai vu branche.
Oui, ça vient de Shu'ab qui veut dire les branches. Ouais. Alors Shaaban, c'est ce qui permet de dispatcher. Effectivement, le prophète nous relate que il jeûnait beaucoup ce mois. Ce mois de Shaaban, il jeûnait beaucoup. Bon, il jeûnait aussi les autres mois, mais en particulier ce mois. Et on l'a interrogé, il lui a dit, « Ya Rasulallah, pourquoi on te voit jeûner beaucoup ce mois de Shaaban ?» Il lui a dit, « C'est un mois que j'ai vu que les gens le délaissent. » Parce qu'ils se disent, « Bon, il est entre Rajab, qui est un mois sacré, et le Ramadan, qui est un mois béni. Il est au milieu entre les deux. Tout le monde a tendance à le laisser. Et je sais que c'est pendant ce mois-là que nos actions sont élevées auprès de Dieu. » Et donc, Allah
Azzawajal, ça veut dire quoi?
Eh bien, quand tu fais des actions au courant de l'année, c'est pendant le mois de Shaaban que Allah Azzawajal trie tes actions et juge ce que tu as fait, et etc.
Juste avant le mois du Ramadan.
Juste avant le mois du Ramadan. Pourquoi? Parce que le Ramadan, c'est le mois où il y a la nuit du destin, où Allah Azzawajal envoie ce qui va se passer l'année suivante. C'est une rupture avec les actions de l'année précédente. Il y a le destin qui est dispatché, d'où le mot Shaaban, puisque Shaaban, ça veut dire tasha'ub, qui veut dire
branche, oui, mais la meilleure branche, c'est quoi?
Dire,
c'est
dispatché comme des
D'accord.
Donc quelque chose qui est éparpillé comme
réparti.
Les branches, réparti comme les branches d'un arbre. Eh bien, le prophète disait, moi j'aime bien jeûner, et pourquoi j'aime bien jeûner? Parce que j'aime que l'on juge mes actions et que mes actions soient élevées et jugées auprès de Dieu alors que je suis en jeûne. Alors que, c'est-à-dire que mes actions continuent à rapporter des hasanats, puisque je suis en jeûne, et donc ce jeûne-là me permet Allah Azza wa Jalla de continuer à juger mes actions alors que je suis en jeûne. Donc il est effectivement très appréciable que de jeûner ce mois béni.
Vous dites très appréciable, mais c'est quoi le statut du jeûne du mois de Shaaban? C'est très recommandé, parce que très appréciable, c'est...
Alors, j'ai dit appréciable pour ne pas dire recommandé, parce que effectivement, c'est
parce
simplement...
Parce que vous n'avez pas dit recommandé, c'est pour ça que vous posez la question.
Je n'ai pas utilisé. Appréciable, ouais. Ça veut dire qu'il peut vous rapporter beaucoup de hasanat. Le prophète le jeûnait, est-ce qu'il a encouragé les compagnons à le jeûner? Il a dit oui, mais ceux qui n'ont pas l'habitude de le jeûner, de jeûner que seulement les 15 premiers jours. De délaisser les 15 derniers jours. Même lui-même, le prophète, ne jeûnait pas tout le mois. Il laissait quelques jours à la fin pour marquer le coup entre le jeûne qu'il fait, qui est le jeûne surérogatoire avant le Ramadan, et l'entrée du Ramadan, qui est un mois obligatoire, un mois béni, un mois particulier, où il se passe plein de choses. On va bientôt l'accueillir, Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jal nous prête vie pour qu'on puisse le vivre dans la foi et dans la spiritualité, et qu'elle puisse nous rapporter au maximum de bonnes actions, à tel point que on raconte que deux hommes ont vécu, un est mort un an avant l'autre. Il est mort de quoi? Il est mort martyr. Il est mort sur le champ de bataille pour défendre l'opprimé, pour défendre la bonne cause. Et malgré tout, son ami à lui, qui a vécu un an de plus, l'a précédé au paradis. Il a été plus rapide que lui. Il a eu plus de privilèges. Et là, il a dit, mais attendez, moi, je suis mort martyr quand même. Je mérite mieux que lui. Il a dit, mais toi, tu n'as pas jeûné l'année suivante. Toi, tu n'as pas fait des bonnes actions l'année suivante. Toi, tu n'as pas prié les nuits du Ramadan suivant. Alors que lui, il a pu le faire. Donc, il a été plus rapide. Il a été plus parce que il a eu plus de mérite que toi parce que lui, il a vécu plus longtemps et il a pu obtenir grâce à ces jours que Dieu lui a prêté comme vie pour les remplir de bonnes actions. Et c'est pour cela qu'il t'a précédé. Donc, Inch'Allah Ta'ala, ce que l'on retient de cette histoire, c'est que le musulman doit remercier Allah Azza wa Jalla de lui avoir donné vie tous les ramadans qui sont passés et d'invoquer Allah pour qu'il puisse vivre le plus de ramadans possible les années suivantes. Parce que personne ne connaît réellement les mérites et les bienfaits du mois du Ramadan. Le mois du Ramadan, Dieu s'est réservé, s'est préservé pour lui la connaissance de la récompense. Un seul le jeûne est connu, la récompense du jeûne est reconnue que par Dieu, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith
qu'on pourquoi on dit d'ailleurs que c'est un mois pour Dieu, ce mois de Ramadan?
Non, alors on dit pas, on dit que Rajab est le mois de Dieu.
Ah bon, c'est pas le mois de Dieu.
Ouais. Attends, Rajab est le mois de Dieu. Rajabu shahrullah. Rajabu shahrullah, c'est le mois de Dieu. Wa Sha'ban ou Shahri, dit le prophète. Et Sha'ban, c'est mon mois à moi, le prophète. Puisque, effectivement, il se l'est réservé pour lui, il jeûnait, il faisait de bonnes actions, etc. Et il dit, wa Ramadan ou Shahru ummati. Et Ramadan, c'est le mois de ma communauté. C'est celui que Dieu a comblé de générosité les membres de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, c'est le mois de Dieu, Shahrullah. C'est le mois où, bien entendu, Allah Azza wa Jal est plus attentionné, plus affectueux, plus miséricordieux, plus généreux, fait comble de miséricorde et beaucoup plus de considération à l'égard de ceux qui accomplissent des bonnes actions pendant ce mois béni. Donc, ce que j'invite les auditeurs croyants et croyantes, c'est de se préparer au mieux pour ce mois béni du Ramadan, dès maintenant en rompant avec tout le passé, tout ce qu'ils ont pu faire comme erreur, comme faute, ceux qui commettent des turpitudes, ceux qui commettent des actes répréhensibles, détestables aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui profitent de ce mois du Ramadan pour un vrai repentir.
Est-ce que d'un point de vue du jeûne, c'est correct de dire que le mois de Chaban pourrait être un mois d'entraînement, Imam Abdel Ali?
Oui, c'est un mois de préparation. C'est un mois où on se prépare pour accueillir le mois du Ramadan. Donc on le prépare en jeûnant un petit peu. On jeûne au moins les 15 premiers jours, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Ceux qui ont l'habitude de jeûner peuvent le jeûner entièrement ou laisser un ou deux jours avant, ne serait-ce que pour marquer le coup avec le mois du Ramadan. Donc il n'est pas bien de jeûner la veille du Ramadan. Il faut toujours marquer une rupture. Et cela, c'est pour ceux qui avaient l'habitude de jeûner, notamment.
On peut pas jeûner le jour de la nuit du doute, par exemple.
Le jour de la nuit du doute, ça sera vendredi 1er avril. Ça sera 1er avril, puis en plus, c'est 1er avril, il ne faut pas mentir. Hein. C'est pas un jour où il faut mentir. Hein. Donc le 1er, il y en a qui vont jeûner le vendredi. Qui vont pas jeûner justement.
Il faut pas jeûner vendredi
pour qu'on puisse démarrer samedi le lendemain, le 2, inchallah, cette année, ce mois béni du Ramadan. Et d'ores et déjà, la grande mosquée de Paris a envoyé un communiqué annonçant que le Ramadan débutera bien le 2 avril et se terminera le 1er mai inclus, et l'Eid sera le 2 mai. Ça sera le 2 mai l'Eid. C'est déjà annoncé par la Grande Mosquée de Paris. Il y aura bien entendu cette rencontre solennelle auprès de Beurre FM pour vendredi soir, Inch'Allah, j'espère que tu seras avec nous, Inch'Allah Philippe, qu'on puisse annoncer et entendre la déclaration de Monsieur le Recteur de la Grande Mosquée de Paris, nous annoncer le début du Ramadan et nous faire des invocations pour que tout cela se passe de la meilleure des façons pour toute la composante musulmane et pour toute l'humanité à travers le monde, et que Dieu rétablisse la paix dans le monde, notamment en Ukraine, où beaucoup de nos frères en humanité sont en train de souffrir, subissent le bombardement, subissent la famine, subissent la misère. Donc voilà, moi j'avais une pensée pour eux ce matin. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir, ah ben non, on doit pas s'occuper d'eux parce que eux ne se sont pas occupés de nous. Ça, c'est un discours égoïste, absurde. On n'est pas dans une logique du coup pour coup, du dent pour dent. Nous sommes une religion et des adhérents à une religion de miséricorde. Nous sommes pas dans le donnant-donnant. Hein, même tu ne donnes pas, moi je donne. Voilà, il n'est pas question de dire, voilà, t'as pas donné pour l'Irak, moi je donne pas pour l'Ukraine. T'as pas donné pour la Libye, moi je donne pas pour l'Ukraine. Mais non, c'est pas, il y a pas eux et pas et nous. C'est nous tous. La Libye, l'Irak et la Syrie ou l'Ukraine, c'est la même chose. Ce sont tous nos frères en humanité. Il est inadmissible que j'entende sur Internet, dans les réseaux sociaux, des gens dire, ah ben non, on doit pas pleurer l'Ukrainien parce qu'ils ont pas pleuré pour les Palestiniens ou ils ont pas pleuré pour je ne sais qui. Arrêtez votre délire. La misère, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de race, elle n'a pas de nationalité, elle n'a surtout pas de religion. Donc arrêtez. Quand vous voyez des enfants souffrir, eh bien, vous devez être affligé autant que si c'était des musulmans. Nous ne sommes pas dans le communautarisme humanitaire. Le sang, la sacralité du sang qui sort d'une peau basanée, noire ou blanche, elle a la même sacralité. Je pense bien me faire comprendre. Ça, c'est la position officielle de l'islam. l'islam est une religion contre le racisme. Hein, elle respecte toutes les créatures de Dieu et en particulier les humains. Donc il faut respecter toutes ces misères que subit aujourd'hui ceux qui sont sous les bombardements, tous ceux qui sont subissent toutes ces calamités, et soyons avec eux dans nos prières.
Alors vous allez pouvoir poser vos questions dans un instant à l'imam Abdelali Mamoun. Il y a beaucoup de questions avant ce mois de Ramadan qui arrive. Alors vous nous avez déjà donné le début, imam Abdelali. Moi je crois qu'il y avait un peu de suspense. Vous dites le 2 mai, donc vos questions...
Le 2 avril.
Ah oui, non. Moi j'étais déjà à l'Aïd. Voilà.
Tu fais du déni.
C'est fait. 01 53 48 3000 si vous voulez poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun.
01 53 48 3000. L'islam au présent revient dans un instant. Plus qu'une radio. Beurre FM, 10h, 11h. L'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, et nous sommes dans le mois de Chaban, hein, imam Abdelali Mamoun, c'est le mois qui précède le mois de Ramadan, et il y a beaucoup de questions pour les gens qui ont ce qu'on appelle des jours à rattraper. Alors, oui. Quelle est la règle, imam Abdelali ?
La règle, par exemple, j'ai une question qui m'a été posée récemment, une dame, elle me dit, moi je vais jeûner le mois du Ramadan, là, mais je dois des jours du mois précédent. Elle me dit, est-ce que je dois payer la fidia ? Est-ce que je peux payer la fidia pour compenser les jours non jeûnés de l'année dernière ? Je lui dis non. Puisque tu dis que tu vas jeûner le Ramadan, c'est que tu es en mesure de jeûner, donc tu peux rattraper. Donc la priorité, c'est d'abord de rattraper. Mmh. Donc tu dois...
On peut pas décider de payer...
Voilà, c'est pas au choix. Ouais. C'est tu dois rattraper, si tu peux rattraper physiquement, que tu as les conditions physiques pour le faire, puisque tu es en train de me dire que tu vas jeûner. Donc ça veut dire que tu es capable de... Lui, il a pas envie de rattraper l'année suivante, mais il a envie de jeûner le Ramadan suivant. Non, ça marche pas comme ça.
C'est pas
à ta guise. Ouais. C'est tu peux jeûner, tu jeûnes. Si tu peux pas jeûner, wa alladhina yutiqunahu min fi'li ataqa bima'na la yatahammal, qui veut dire qu'il ne peut pas supporter le jeûne, celui-là verse la fidya, fidyatu ta'amu miskin. Voilà ce que dit le verset du Coran. Le fidyatu ta'amu miskin pour celui qui ne peut pas jeûner. Mais si tu peux jeûner, tu dois jeûner. Donc si vous reste des jours non jeûnés, vous devez profiter de ce mois de Chaban pour jeûner l'année précédente, les jours qu'on n'est pas jeûné l'année précédente. Et si vous ne pouvez pas jeûner parce que vous êtes atteint d'une maladie chronique, une maladie incurable, marad muzmin en arabe, on dit marad mu'adal, comme on dit en arabe littéraire, c'est marad mu'adal ou marad muzmin, et maladie incurable, là effectivement, et que le médecin bien sûr diagnostique, c'est-à-dire que vous prescrit l'interdiction de jeûner parce qu'il pense qu'il y a un risque avéré pour votre santé ou votre vie, et à ce moment-là, vous ne jeûnez pas et vous versez la fidya. Donc il faut que le risque soit avéré, attention, hein. Faut pas que ça soit supposé par précaution maintenant. Il faut vraiment que le médecin dise non, vous c'est sûr et certain, si vous jeûnez, vous mettez votre vie en péril. Si le médecin il vous dit ça, vous n'avez pas le droit de jeûner. Vous n'avez plus le droit de jeûner. Votre jeûne, vous le vivez autrement. Le Ramadan, vous le vivez autrement. Le Ramadan, vous le vivez par la sadaqa, par le bon comportement, par les noblesses de caractère, par la gentillesse, par la générosité, par tout ce qui va permettre de rapporter un maximum de hasanat. Et Dieu ne vous enlèvera pas la récompense du jeûne. C'est-à-dire, il vous accordera la récompense du jeûne comme si vous l'aviez jeûné.
Mais pour rattraper, le dernier délai, c'est quoi ?
Ben, le Ramadan. Normalement, on ne doit pas attendre le Ramadan suivant.
Donc, voilà. Ça, c'est le Ramadan d'après.
Voilà. Ouais. Si maintenant, moi, j'ai laissé des jours, volontairement, par négligence, j'ai laissé des jours non jeûnés, que ce soit un homme ou une femme, hein, une femme indisposée, ou une femme enceinte, ou une femme, ou un homme qui a voyagé, etc., ou un homme qui n'a pas jeûné pour une maladie quelconque, et qui a laissé passer jusqu'au Ramadan suivant, alors qu'il pouvait jeûner, ben, beaucoup de savants considèrent qu'il mérite la double peine. C'est qu'à la fois, il va verser la fidya, et après le Ramadan, il va rattraper ses jours de jeûne qu'il n'a pas jeûné de l'année d'avant. Donc, il a la double peine. Ça, c'est l'avis de Oumouna Aïcha, radiallahu ta'ala anha, et qui est suivi par l'école malikite. Donc, aujourd'hui, nous, en majorité en France, nous sommes malikites. Nous appliquons cette règle que si quelqu'un attend jusqu'au Ramadan suivant sans avoir rattrapé son jeûne, et par négligence, eh bien, devra subir la double peine. À la fois, il verse la fidya et à la fois, il rattrape le jeûne. Maintenant, si quelqu'un, il a une maladie incurable, il a une maladie qui guérira jamais, chronique, hein, et qui ne peut pas jeûner, il verse la fidya. Est-ce qu'il doit rattraper le jeûne ? Bien sûr que non. Ça y est, sa fidya remplace le jeûne. Il n'a pas. Madame, une dame, elle est enceinte. Ensuite, après qu'elle, l'enfant naisse, elle a eu sa période de lochi, ce qu'on appelle
retour
les lochis.
Retour de couche.
Voilà, ça s'appelle les lochis en français. Nifes, en arabe, ça se dit nifes. Et qu'ensuite, elle a allaité son enfant. Et qu'elle a constaté que son lait allait tarir si elle jeûnait, si elle rattrapait son jeûne. Eh bien là, elle n'est pas concernée par le jeûne, même si ça arrive jusqu'au ramadan suivant et qu'elle continue à allaiter son enfant. Là, elle verse la fidia seulement. Elle s'acquitte de la fidia et elle n'aura pas à rattraper ses jours non jeûnés. Elle a seulement la fidia à verser et c'est tout. Et le ramadan suivant, soit elle peut jeûner et elle jeûne. Si elle est encore en train d'allaiter son enfant, eh bien, elle ne jeûne pas le ramadan. Elle allaite son enfant et elle versera la fidia. Et qu'elle le verse si elle peut pendant le ramadan, c'est encore mieux pour elle. Si elle peut, dans la mesure du possible.
Bien, alors on a Abderrahim.
La fidia, une dernière chose, c'est 5 euros par jour non jeûné.
Voilà. C'est toujours 5 euros.
Toujours bien. 5 euros.
Oui. Alors Abderrahim est avec nous au 01 53 48 3000. Oui, c'est ça. Bienvenue Abderrahim.
Marhaba Abderrahim. Allô. Salam alaikum. Salam alaikum, imam, monsieur Philippe. Vous allez bien?
Ça va oui, bien, et vous Abderrahim?
Merci, merci. Donc, moi j'ai une question.
Alors on y va, on écoute votre question Abderrahim.
Voilà, c'est par rapport au ramadan. Ah, donc, je voulais savoir, parce qu'il y a des gens qui font le ramadan, et ils dorment toute la journée. Ça, donc ils veillent toute la nuit, après ils sahar, après ils dorment, ils se lèvent, je sais pas, à 17h, 18h, il y en a jusqu'à 19h.
Ouais.
Ce qu'on appelle le ramadan, voilà. Le ramadan de tsetse.
Tsetse, ah, de la mouche.
Comme tsetse. La mouche, oui.
La mouche, tsetse. Donc c'est un ramadan mouche tsetse.
C'est ça.
Donc,
Et qui ne travaille pas aussi, hein. Pour ajouter, il ne travaille pas. Voilà. Est-ce que le ramadan,
il
est.
Il ne travaille pas parce qu'il a pris des congés ou il ne travaille pas parce que c'est un fainéant.
D'abord, est-ce que vous avez des noms?
Non, non, pas de nom.
Est-ce que vous avez des noms comme ça? Ça sera plus simple.
Non, c'est des gens que je connais. C'est des gens que. Il y a un petit peu de la famille, des amis.
Ça sent le vécu quand même.
Voilà. Voilà, voilà.
Alors, normalement, donc, alors je vais répondre à ta question. Normalement, le ramadan, c'est un effort supplémentaire à ce que tu as l'habitude de faire. Et non pas un effort qui remplace un autre. Le problème, c'est que si tu remplaces les efforts quotidiens, le travail, le fait de faire ce que tu as à faire la journée, etc., par le ramadan, et que donc tu consacres tes journées du ramadan au sommeil, je vois pas l'intérêt de jeûner. C'est vrai que c'est absurde que de remplacer un effort par un autre. L'effort du ramadan doit être complémentaire et supplémentaire à ce que tu as l'habitude de faire. Sinon, l'effort il est vain.
C'est-à-dire,
c'est un deal qui est intolérable.
D'accord, mais enfin là vous êtes dit je vois pas l'intérêt. Mais techniquement,
si quelqu'un il jeûne, de toute façon le jeûne du ramadan est obligatoire.
D'accord.
Pour tout musulman.
Mais techniquement,
et la prière est obligatoire.
Si vous dormez pendant que vous jeûnez. Et que vous ne mangez pas toute la journée, même si vous dormez, est-ce qu'il est valable votre jeûne?
Vous n'avez pas mangé toute la journée?
Non, quelqu'un qui dormirait pendant toute la journée.
Ramadan est valable, bien sûr.
Voilà.
Puisque la condition de validité du jeûne du ramadan, c'est de ni manger, ni boire, ni de consommer de relations intimes de l'aube, c'est-à-dire le fajr, jusqu'à ghurub al-shams, jusqu'au coucher du soleil. Si tu respectes ces conditions-là, juridiquement parlant, je dis bien juridiquement parlant, ton jeûne est valable, mais est-ce que moralement, et spirituellement, il est valable. Ça, c'est une autre question. Le prophète dit dans un hadith, man lam yada' qawl az-zur wa al-'amal bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Ça, c'est une comparaison. Celui qui ne cesse de répandre les rumeurs calomnieuses à l'égard d'autrui, Dieu n'a nullement besoin qu'il s'abstienne de manger ou de boire pendant le Ramadan. À quoi ça sert de s'abstenir de manger et de boire si c'est pour parler sur les gens derrière leur dos? Voilà ce que dit le hadith. Donc, effectivement, cette personne qui va jeûner, mais qui à côté de cela, elle va commettre des turpitudes, des actes détestables, c'est sûr que son jeûne ça sera simplement...
En tout cas, juridiquement, c'est recevable.
C'est-à-dire qu'auprès de Dieu, Dieu ne pourra pas lui dire « tu n'as pas jeûné, donc je vais te punir, je vais te châtier pour ne pas avoir jeûné le ramadan ». Non, puisqu'il a jeûné le ramadan. Par contre, ce qu'il aura fait à côté, est-ce que ça va lui permettre de faire gagner des hasanats, c'est-à-dire des élévations spirituelles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Peut-être que non, parce que il aura à côté de cela commis des actes détestables ou au contraire négligé des actes obligatoires tels que la prière. Hein, donc c'est important de il faut pas décourager quelqu'un de prier, de jeûner parce qu'il ne prie pas, surtout pas. Hein, s'il jeûne, il dit moi je prie pas, faut pas lui dire bah ça sert à rien de jeûner. Faut lui dire jeûne, mais fais un effort pendant ce ramadan pour essayer de commencer ta prière, Inch'Allah.
Parce que moi, ce que je voulais dire que celui qui dort toute la journée, donc il ne ressent pas la faim, les nassoirs. Donc si, le but du ramadan, c'est...
Bah, le soir, quand même, de toute façon, tu ne peux pas rester toute la journée. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui, de le fajr jusqu'au coucher du soleil, il dort. À un moment donné, il est obligé de se lever pour aller, pour, je ne sais pas moi... ça c'est bizarre quoi. Sauf s'il habite dans le pôle nord où les journées sont très courtes, c'est vrai que des fois il y a des journées qui commencent à 9h et qui se terminent à 3h de l'après-midi. Ouais, dans Scandinavie. En été par exemple, quand le Ramadan c'est en été et que la journée commence à 9h ou 10h du matin, le fajr, je parle du fajr, ouais. Et que le coucher du soleil a lieu à 3h de l'après-midi, c'est sûr que bon là c'est différent. Mais en France, on est quand même dans une région du monde où le jeûne quand même dure assez longtemps. En été, il est très long. Et en hiver, il est assez court, mais pas peut-être si court que cela. Quand on commence à jeûner à 8 heures et qu'on rompe à 5 heures, c'est vrai que ça fait court. On peut effectivement dormir entre 8 heures et 5 heures. Ouais. Mais bon, la question n'est pas là. La question, c'est que cette personne-là doit prier quand même le fajr, subh, elle doit prier dhor, elle doit prier l'asr, à l'heure de maghrib, elle va prier le maghrib. Si elle veut que son jeûne est une utilité, parce que le ramadan, le jeûne, ce n'est pas une finalité en soi. C'est un moyen de se mettre dans un état spirituel qui permet l'élévation spirituelle. Ce n'est pas elle-même qui va t'élever, c'est l'état de jeûne qui va t'aider spirituellement à t'élever. Tu vois ce que je veux dire? Si moi, cet état-là, je n'en profite pas. Par exemple, j'ai faim. La journée, j'ai faim. Je ressens la faim. Et qu'à ce moment-là, quand je ressens la faim, je pense à ceux qui crèvent de faim dans le monde. Et donc cela, ça va me motiver à penser aux nécessiteux. Et donc, je vais prévoir un budget pour distribuer aux nécessiteux, aider les associations caritatives, etc. Eh bien, là, il aura tout compris. Mais si c'est pour dormir et rien changer et attendre que le temps passe, parce que pour lui, c'est un temps pénible, on doit savourer le ramadan et non pas le subir. Voilà.
Voilà, Abderrahim, pour votre question, qui était une bonne question. Merci. Samia est avec nous au 01 53 48 3000. Samia, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Samia.
Bonjour à tous, bonjour à Cheikh. Je me permets de vous contacter car j'aurais voulu connaître la position de Cheikh quant au fils avec don de vos fils.
Alors, ce que vous allez faire, Sonia, vous enlevez le haut-parleur. Enlevez le haut-parleur ou le kit main libre si vous l'avez, comme ça on va bien
c'est
vous
bon
entendre.
Ouais, c'est bon.
Alors, pas ma position. Écoutez, ma sœur, moi je donne pas de position personnelle. Moi je donne des avis consensuels, c'est-à-dire les avis des savants unanimement parlant. Ou s'il y a divergence, je dis qu'il y a divergence. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de divergence sur cette question. Les dons d'ovocytes, donc finalement, donner naissance à un enfant qui biologiquement n'est pas le vôtre, ce n'est pas licite en islam. Ce n'est pas autorisé. Il n'est pas permis d'utiliser l'ovocyte d'une tierce personne, notamment en plus si c'est une personne X, c'est-à-dire inconnue. Puisque vous allez... à quoi bon, alors, à ce moment-là, la zina, pourquoi on interdit la fornication? C'est justement pour connaître la filiation, connaître la descendance des enfants. Imaginez l'enfant, il grandit, à la fin, vous lui dites, tu sais que t'es pas mon fils, t'es un enfant issu d'une fille inconnue. Ah donc t'es pas ma mère, t'es pas mon père. Et alors je suis qui, moi? Donc l'enfant, il se retrouve sans racine. Il a pas de passé. Il se retrouve sans parents, sans grands-parents, sans ancêtres, sans origine. Il sait pas ce qu'il est. Donc vous frustrez la réalité et vous provoquez un traumatisme énorme chez l'enfant. Alors, peut-être pas tous, mais chez beaucoup d'enfants. Donc un enfant, il doit connaître sa filiation, parce que pour s'émanciper dans l'avenir, il faut connaître son passé. Il faut reconnaître ses racines. Il faut savoir d'où on vient pour aller où
d'accord,
on veut aller.
D'accord, pour répondre à la question de Samia, le don d'ovocytes n'est pas autorisé.
Non, pas du tout.
Même si certains pays aujourd'hui, tels que le Portugal ou le Danemark, ont levé justement l'anonymat.
Même si on connaît la l'origine, c'est que vous êtes à ce moment-là une mère porteuse. On parle de GPA là, gestation pour autrui, gestation pour autrui. Qui est la maman? Celle qui l'a portée ou celle qui est génétiquement à l'origine du capital génétique de l'enfant? Puisqu'on parle bien de capital génétique
qui est porté.
Voilà, donc c'est le fonda, c'est le désordre. On ne sait plus, le gamin, il ne sait plus ce qu'il est. Sa mère?
La question est intéressante de dire, aujourd'hui, si on lève l'anonymat, donc la question...
La maman va être connue, voilà. La maman génétique,
oui, elle est connue,
biologique.
Mais elle est connue.
D'accord, mais on sait qu'aujourd'hui, la mère porteuse transmet aussi des gènes à l'enfant. Donc elle est aussi la mère biologique d'une certaine manière, parce qu'elle va transmettre des gènes à cet enfant qu'elle porte pendant 9 mois, dont l'ovocyte n'est pas le sien.
Mais si l'anonymat est levé, il y a quand même une partie.
Donc l'enfant, il se retrouve avec deux mères. Il a deux mères biologiques. Voilà. Vous croyez que c'est stable pour un gamin d'apprendre qu'il a deux mères? Non, non, non. Essayez. Vous faites aux autres ce qu'on vous aimerait, ce qu'on fasse pour vous. Hein, moi, tout le monde aimerait avoir un papa, une maman normale, normaux. On dit normaux, je crois, parce qu'il y en a deux. Et on voudrait que, voilà, qu'ils grandissent normalement et qu'ils sachent d'où ils viennent et qui sont ses parents. Et voilà, et c'est tout. Maintenant, si vous pensez ne pas pouvoir avoir d'enfants parce que vous avez atteint un certain âge, bah, il vous reste l'adoption, c'est-à-dire ce qu'on appelle la kafala. Cette kafala qui est une prise en charge d'un enfant orphelin et dont la récompense est gigantesque, puisque le prophète dit que celui qui prend en charge un enfant orphelin, je serai, et moi et lui, au paradis comme les deux doigts de la main. Et il a montré l'index et le majeur.
Mais ça, on est quand même sur des sujets de société qui sont importants, qui traversent le monde entier. Est-ce que l'islam a une réflexion particulière aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des réunions de savants qui sont en train de parler de ces questions?
Ils ont déjà parlé, ils ont déjà tranché. La réponse est non. La GPA n'est pas autorisée. La gestation par autrui, à partir du moment où ce n'est pas vos gènes, ce n'est pas voilà, on ne prête pas, on n'utilise pas le corps d'une femme pour une grossesse d'une autre femme. C'est pas sérieux. Hein, le corps humain ne se prête pas. Et après, qu'est-ce qu'elle va juger, la justice? Demain, si les deux mamans prétendent au lien de parenté, comment on fait? Qui va être la mère si chacune des mamans dit c'est mon fils? Elle a dit je l'ai porté, l'autre a dit quoi, mais c'est mon ovocyte. On fait comment?
Alors c'est pour ça que c'est souvent, même si on ramène une personne que l'on connaît pour un don, on donnera jamais, par exemple si c'est sa sœur, on donnera jamais le gène les ovules de la sœur. On donnera quelqu'un qui sera anonyme pour que demain justement la sœur ne se retourne pas et dise pas.
D'accord. Cette personne qui est anonyme, imaginons, elle a donné à la banque de sperme énormément de son sperme, et ce qui fait que tous les bébés qui se trouvent dans ce truc récipient où il y a les fameux les tiges dans de la, comment ils appellent ça, l'hélium, non, c'est comment ça s'appelle le produit qui mettent à moins 200 degrés là pour protéger, là pour geler les ovocytes. Imaginez, demain il tombe amoureux de sa sœur. Pourquoi on interdit? C'est parce que pour éviter l'inceste, pour le désordre d'affiliation. Demain, une personne, elle soit sûre que avec qui elle va se marier, c'est pas sa sœur. Si on mélange tout, on ouvre la porte du shaitan, là, c'est la porte du n'importe quoi. C'est le désordre total, anarchie. Tout le monde va se marier avec sa sœur, avec sa tante, avec sa nièce, avec tout et n'importe quoi. Alors que voilà, il est important que quand il y a un mariage, il y ait l'assurance que il n'y a pas de lien de parenté direct entre le conjoint et la conjointe. Et pour cela, il faut connaître effectivement la filiation de l'enfant ou des enfants.
On aura l'occasion d'en reparler, Samia.
C'est un long sujet, oui.
C'est un sujet de société, en tout cas, qui aujourd'hui traverse l'ensemble des sociétés. Merci, Samia, pour votre question.
Merci à vous.
En tout cas, la GPA est aujourd'hui interdite en France, et c'est ce qui compte.
Alors, 01 53 48 3000, vous avez des questions à poser à l'imam Abdelali Mamoun. Vous serez là avec nous dans un instant. 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beur FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, l'imam Abdelali Mamoun, tous les samedis entre 10h et 11h sur Beur FM. Vous posez vos questions en direct à l'imam au 01 53 48 3000. Alors nous avons Jamila qui est avec nous. Jamila, bienvenue.
Oui, bonjour. Bonjour. Oui, donc ma question c'est, je sais qu'actuellement on a une pénurie de lait maternel dans les hôpitaux. Et comme je suis, comme j'allais être actuellement, je me posais la question de savoir si c'était permis de donner, de faire un peu du don de lait maternel en fait pour les prématurés qui ont besoin en fait de ce lait-là pour survivre en fait dans les néonates.
Il y a un véritable besoin.
Il y a une vraie pénurie de
lait. Attends, du lait en poudre, ils donnent et ils peuvent donner du lait en poudre.
Ah non, mais on parle de lait maternel là.
là, c'est le lait,
le lait maternel, ça peut pas se faire dès la naissance. Il y a du lait.
Apparemment, ils disent qu'ils ont besoin de lait maternel parce que c'est le seul lait que les prématurés peuvent prendre en fait pour se rétablir. Voilà. Et c'est vrai que moi j'ai fait quelques recherches. Bon, c'est vrai qu'il y a ce qui me bloque en fait, c'est le fait de donner son lait et d'avoir ensuite des enfants de lait, enfin des frères de lait, des sœurs de lait. Donc c'est voilà. Et donc c'est pour ça que je vous appelle. Mmh. Donc ça me taraude depuis plusieurs jours en fait donc je voulais avoir votre avis à ce sujet-là.
Bah écoutez, moi les informations que j'ai sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet à divergence, hein, effectivement les savants ne sont pas tous d'accord sur la question. Est-ce que on considère le frère de lait ou la mère de lait un enfant qui a sucé donc le téton directement le sein de la maman, la nourrice, celle qui lui a donné le sein, pour qu'elle soit considérée comme sa mère de lait, et le nombre de fois, la quantité est de 5 tétés qui soient reconnus, hein, ce qu'on appelle khams rada'at ma'loumat, hein, qui soient reconnus, et donc 5 tétés. Est-ce que on peut considérer que si j'offre l'équivalent de 5 tétés dans un biberon, c'est-à-dire j'utilise une ventouse pour faire aspirer le sein, c'est-à-dire le lait directement dans un biberon, et que l'enfant boit mon lait à travers un biberon, donc non pas directement au sein mais avec le biberon. Moi, je suis de ceux qui pensent que oui, c'est-à-dire que si à partir du moment un enfant a bu l'équivalent de 5 tétés reconnus d'une maman, que ce soit directement au téton ou l'extraction du lait en utilisant une ventouse, des ventouses, eh bien, pour moi, elle devient son frère de lait. Parce que c'est le lait qui établit le lien de fratrie par le lait. Ce qu'on appelle al-khuwa min al-rada'a. Al-khuwa min al-rada'a. Et le prophète dit au sujet de rada'a, yahrumu bil rada'a ma yahrumu bil nasab. Ça n'existe pas dans la loi française. Il ne sera pas reconnu comme son frère, mais en islam, il est reconnu. Il est strictement interdit de se marier avec sa sœur de lait ou avec son frère de lait, ou avec sa mère de lait, ou avec sa tante de lait. Par exemple, la sœur de ma mère de lait, je peux pas marier avec elle. C'est yahrumu bil rada'a ma yahrumu bil nasab. Ce qui est interdit par le sang est interdit par le lait, l'allaitement. 5. Par contre, il en faut 5. Hein. C'est pas juste une petite tétée. Allez, c'est bon, tu deviens mon frère ou je deviens ta mère, mère de lait, parce que t'as tété un tout petit peu de mon sein. Non, il faut 5 tétés reconnus, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être pas rassasiantes, mais au moins reconnus comme étant une tétée complète.
D'accord, parce que je sais que ce qui se passe dans les hôpitaux, c'est qu'ils récupèrent donc les biberons des donneuses, et en plus donc c'est un don anonyme, c'est ce qui pose problème, et qui stérilisent ce lait et les mélangent en fait avec les autres laits des autres mamans, donc il y a en fait tout un mélange en fait de lait de
plusieurs tous les laits, ouais, d'accord.
C'est ça.
Il faut une sorte de petite production locale dans l'hôpital avec le lait des femmes.
Bon, vous savez, le lait que vous allez acheter au supermarché, c'est des mélanges de lait. Hein.
Ah ouais, mais c'est des... Oui. Ah non, ben non.
C'est que si.
C'est pas... Ah bon, c'est du vrai lait
non,
à l'origine.
Non, mais c'est du lait reconstitué, mais c'est des mélanges de lait. C'est pas le lait que d'une vache quand vous achetez.
Oui, mais c'est pas du lait d'être humain.
Ah non, mais
voilà, l'important c'est de savoir est-ce que c'est du lait.
C'est déjà du mélange.
Ouais, on peut importe. Oui. Tu peux mélanger ce que tu veux. La question c'est si tu mélanges du lait de d'être humain, de femme.
Oui, c'est le cas en fait. C'est ce qui se passe en fait dans les maternités. Dans les
En principe, on devrait pas. En islam, ça devrait pas être autorisé puisque ça crée justement la confusion concernant le lien de. Le lien. Mais maintenant, si un enfant qui est prématuré dans sa couveuse a besoin de ce lait-là et qui a nécessité, qui fait loi pour le préserver en vie, bien sûr qu'il y a dérogation et qu'il pourra le prendre, ce lait. Et puis, bien sûr, s'il n'y a pas de mère reconnue, c'est qu'il n'y a pas de mère, tout simplement. S'il n'y a pas de mère connue, il n'a pas été mentionné le nom de la mère sur le biberon, ben, ça sera comme si c'était du lait de vache ou du lait artificiel, puisque on n'a pas de, et c'est sous X. Mais s'il est nécessaire de faire comme ça, eh bien la nécessité fait loi. Maintenant, si on peut faire autrement, et qu'une maman peut faire autrement et qu'elle est de confession musulmane, sa conscience religieuse lui obligera à procéder autrement que ce que lui propose la médecine en France. Si, bien sûr, il y a substitution.
Oui, bah en fait c'est vrai que c'est le problème aujourd'hui, c'est que ça reste anonyme et ça c'est dommage parce que au moins on saurait à qui donner son lait pour éviter effectivement les risques.
Mais il vaut mieux pas le donner, ma sœur. Le mieux c'est de le donner directement le sein à l'enfant. Vous voulez devenir sa mère de lait, vous en assumez les conséquences derrière, puisque vous devenez sa mère de lait après 5 tétés. C'est votre mère, vous êtes donc la mère de lait de cet enfant. Vos enfants ne pourront plus se marier, ne pourront pas envisager de se marier avec cet enfant tété par votre sein. Voilà, et toutes les règles qui vont avec. D'accord. Et vous deviendrez un mahram, bien entendu.
D'accord,
un mahram, c'est-à-dire vous pouvez vous montrer devant cet enfant sans hijab. C'est pour ça que je recommande souvent dans les adoptions. Vous savez, quand il y a une adoption, c'est que si, bien sûr, la maman qui a adopté, c'est parce qu'elle peut pas avoir d'enfant. Si elle a pas d'enfant, c'est qu'elle peut pas avoir de lait. Mais si elle a une sœur qui va accoucher, moi, je l'invite que si c'est dans les 2 ans après sa naissance que vous avez cet enfant adopté, eh bien, de lui donner le sein de votre sœur pour que vous deveniez sa tante de lait. Vous devenez sa tante de lait. En devenant sa tante de lait, même s'il grandit ce garçon, à 18 ans, 19 ans, quand il sera vraiment un adulte, vous pourrez continuer à vous montrer devant lui comme sa mère. Vous êtes un mahram.
D'accord.
Voilà.
Merci beaucoup. Salam alaikum.
Merci Jamila pour votre question. Alors, Maître Bouali, qu'est-ce qu'on fait? Combien de minutes nous reste-t-il? Oui, non, mais l'imam Abdelalim Amoun, en 2 minutes, il répond jamais à une question. C'est pas possible. Si, on est bon. Alors, on y va. On va à Toulouse. Nadia, bienvenue.
Oui, allô? Oui,
bienvenue Nadia.
Oui, salam alaikum.
Wa alaikum salam.
Je vous appelle en fait concernant la prière. Moi, je travaille à 100 km de chez moi. Je pars le matin, je reviens le soir. Je suis dans le milieu médical. Et je voulais savoir concernant la prière, est-ce que je peux la faire au même titre que quelqu'un qui voyage, c'est-à-dire un qasseur?
Si vous n'avez pas, vous n'êtes pas voyageuse, puisque c'est un déplacement. Vous ne partez pas avec votre valise. C'est pas un voyage. Quand le matin vous partez, vous dites pas à votre mari ou à vos enfants,
non,
je pars en voyage. Donc vous n'êtes pas en voyage.
C'est la question.
Il y a une question de niya, d'intention.
Mais il y avait pas cette
de 80
km. De 80 km.
Oui, mais il faut un intention avec.
Ah oui, d'accord.
Là, il y a pas d'intention. C'est comme quelqu'un qui habite en Suisse, qui prend un jet, qui va à Paris tous les jours, en jet privé, il va bosser, il repart le soir dormir chez lui à Genève, par exemple. Il n'est pas voyageur, même s'il a fait l'équivalent d'un voyageur.
D'accord.
Mais
d'accord.
C'est une question de niya. Il est dans l'abdou.
Non, mais en fait, parce qu'en fait, on les cumule. C'est-à-dire, quand je rentre, comme je ne peux pas les faire...
J'ai compris. Donc là, il y a un autre sujet. Est-ce que vous...
Voilà.
Que ça soit à côté de chez vous ou loin de chez vous, vous êtes dans le cas d'énormément d'autres personnes similaires à vous, que ce soit des hommes ou des femmes, qui ne peuvent pas prier dans leur lieu de travail. Eh bien, vous devez, bien entendu, attendre de rentrer chez vous si le règlement ne vous le permet pas. Si le règlement vous le permet et qu'il est possible d'avoir une dérogation en la matière, profitez des facilités qui vous permettent, dans la discrétion, ne soyez pas dans le prosélytisme d'inventer des faux trucs, parce qu'aujourd'hui on est en train de nous critiquer en disant ils sont en train d'islamiser le monde professionnel, etc., avec leur religion, etc. Non, il faut être discret, il faut être dans l'intimité le plus possible. Voilà. J'arrête là.
Voilà Nadia. Alors, si vous avez des questions à poser à l'imam Abdelali, vous pouvez le faire après l'émission sur le numéro qui vous communique, hein, imam Abdelali.
06 29 25 35 00. Je répète que les inscriptions pour le Hajj
déjà
ont commencé. Le Ramadan et aussi, il y a des Umrah qui se font avant. J'y participerai pas, mais ceux qui veulent et qui veulent avoir un bon tuyau pour faire une bonne Umrah, vous pouvez m'appeler au 06 29 25 35 00. Aussi le Hajj par délégation, les Umrah par délégation. Tout ce qui relève de la Umrah et du Hajj, c'est monsieur Abdelali, c'est le spécialiste.
Voilà. Ah, il y avait Huggy, les bons tuyaux, et il y a l'imam, les bons tuyaux.
Voilà, Huggy, c'était pas Starkey Hatch. Ah,
voilà, exactement.
C'était ça.
Voilà. Tu vois, Starkey, je pensais Hatch, à ça, imam Abdelali. Ouais. On vous retrouve à la semaine prochaine pour l'islam au présent.
Retrouvez l'islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.